Vous êtes sur Radio Libertaire et c'est le moment de l'émission CND Educ. Ne froid.
Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez l'émission de la CNT Éducation 93. On est ravis de vous retrouver ce soir avec moi en studio, Polo. Salut Polo.
Bonsoir à tous.
Et Yuri, moi-même. Et on remercie tout de suite, dès maintenant, Panna Cotta à la technique. Une petite émission consacrée aux sciences, un peu, et à l'intelligence artificielle. C'est le monde de la science.
Science et technologie, on va voir un peu voir comment ça s'articule aussi.
Oh là là, oh là là. Quel programme. Faut que j'arrête de dire faut que j'arrête de faire des trucs comme ça qui font du bruit dans les voilà. Et ben j'espère que vous allez bien. On est ensemble jusqu'à 22h30 environ. Et puis on espère que vous allez kiffer et que en ce moment, c'est pas trop la galère. C'est pas trop la merde dans votre vie, hein? Voilà. Et on espère que vous n'êtes pas trop devant le match Liverpool-PSG, parce que petite dédicace.
Malheureusement.
Alors, au programme ce soir, on s'était dit qu'on se lirait un article écrit par un historien des sciences qui s'appelle Jean-Baptiste Fressoz. L'article s'appelle « Pour une histoire des symbioses énergétiques et matérielles ». Ah ouais, le titre, déjà, il claque.
Toujours.
Déjà. Mais vous allez voir qu'il y a des trucs dedans, ça... En vrai, moi, je trouve ça trop bien, mais c'est peut-être très personnel. J'espère vous communiquer...
Oui, c'est très intéressant.
Bien, bien. Merci. Ça, ce sera en première partie, une petite heure, un truc comme ça, si on déborde. Hein. Et deuxième partie, comme on a dit, donc, sur l'intelligence artificielle, si tu veux nous teaser un petit peu le programme.
Oui, bah, tout simplement aussi parce que c'est au programme de terminale d'enseignement scientifique, il y a une partie qui doit traiter de l'intelligence artificielle. Donc, comme on est à la radio, je ne vais pas me lancer dans des explications techniques avec des formules et des choses comme ça. Donc, on va surtout parler d'un peu ce que c'est. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle intelligence artificielle et surtout, quelles sont les limites principales de son utilisation et même de son existence.
Mmh. De comment, du coup, t'en parles avec les élèves quand t'es en cours ou comment on devrait en parler d'après le programme ou pas, parce que ça se trouve, le programme, il est volontairement flou.
Le programme, oui, est volontairement flou. Il y a quand même tout un aspect officiel sur les limites de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que bah souvent, c'est ça aussi le plus intéressant pour les élèves, parce que bon, forcément,
c'est celui...
la technique en elle-même et le fonctionnement est ultra compliqué. Il y a un niveau mathématique qui est très très élevé pour vraiment appréhender les équations de l'intelligence artificielle telle qu'elle existe actuellement. Et donc, c'est beaucoup plus simple de voir quelles sont les limites, quels sont les biais, de les constater par soi-même, puisque nos élèves utilisent déjà, en général, l'intelligence artificielle sous des formes directes ou sous des formes indirectes.
Ok. Eh bien, hyper, ça va être... il va y avoir plein de choses à dire. Alors, à chaque fois, bien sûr, bon, je ne l'ai pas dit sur la première partie de l'émission, l'idée aussi, c'est de voir comment est-ce qu'on s'occupe, enfin, comment on s'en saisit pour de ce qui est dit dans l'article, pour en parler avec les élèves, hein, c'est pas pour en parler de l'article en lieu. Voilà, qu'est-ce qui est fait ou pas fait à l'école, notamment, bon, peut-être plutôt au collège-lycée, en tout cas, moi, prof de SVT au collège, et puis... Voilà, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça vient éventuellement modifier dans la construction de nos cours, etc., etc. Bon, ceci étant teasé un petit peu pour la suite, je propose qu'on commence par un premier petit son, histoire de se mettre en jambes, si ça vous va. Panna Cotta me voit, il fait « Oh, quoi, un son ?» Et le son s'appelle « Normal Spirit » de Louis Sling and the Bombs. Bonne écoute, à tout de suite. We'll be right back. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, l'émission de la CNT Éducation 93, jusqu'à 22h30. Eh bien, comme on vous l'a un petit peu annoncé juste avant, on va commencer cette première partie d'émission avec la lecture et le commentaire de l'article. Pour une histoire des symbioses énergétiques et matérielles de Jean-Baptiste Fressoz, donc historien, qui est au CNRS, blablabla. Bon, ok. La petite introduction, c'est parti. Avec l'urgence climatique, l'expression transition énergétique a acquis un tel prestige que les historiens en sont venus à l'employer pour décrire toutes sortes de processus, y compris ceux qui furent rigoureusement parlé des additions énergétiques. Le problème de la transition énergétique est qu'elle projette un passé qui n'existe pas sur un futur pour le moins fantomatique. Cet article propose une nouvelle façon d'aborder l'histoire de l'énergie en tant que dynamique d'accumulation symbiotique. Bon, voilà, on va continuer après. Juste pour commencer, en fait, c'est il y a presque des questions qu'on pourrait poser aux élèves sur la question de l'énergie en cours. Par exemple, à quel siècle est-ce que on a les années où on consomme le plus de charbon? Genre, on pourrait demander aux élèves, voilà, vous avez le choix, 19e, 20e, 21e siècle. Parce que souvent, il y a cette image du, c'est au 19e siècle qu'on consomme plus de charbon. Bon, on va en parler juste après, que c'est faux. Alors, l'article parle spécifiquement de l'énergie, mais on pourrait l'imaginer pour toute la matière. Pareil, ça va en parler un petit peu après. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer une plaque de plâtre? Ça pourrait être un sujet, voilà, pour les élèves, un sujet de recherche. Qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer les briques et qui constituent les murs, le béton, etc., etc. Et donc, souvent, ils vont penser aux matériaux, normal, voilà, mais pas tant à l'énergie qu'il va falloir pour le... Ok, c'est une sorte de... une boîte noire, en fait. C'est vraiment un truc, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est de l'énergie, bon, c'est un peu vague. Ok, comment on l'amène avec eux? Et puis ouais, bon, comme dit dans l'introduction, bah, question de la transition, parce que on entend souvent, voilà, on va faire la transition vers un monde plus écologique, etc., etc. Bon, je pense que les personnes qui nous écoutent, et puis nous à la CNT, on est un peu convaincus que si on dit aux gens qu'ils vont utiliser des objets plus respectueux de l'environnement, globalement, c'est qu'à un moment, il y a une merde derrière, enfin, voilà.
Et puis, le mot transition donne aussi l'impression que ce sera totalement neutre. On va changer quelque chose par l'autre, on va le remplacer, et puis ce sera comme pareil, enfin, comme avant. Et sous-entendu, effectivement, on va arrêter l'ancien.
Ouais. Oui, l'article va en parler, justement. Voilà, et justement, sur la transition énergétique, et ça peut être aussi, voilà, souvent, transition énergétique, c'est souvent... par ça qu'on l'entend aussi. Ah, il faut qu'on va faire la transition énergétique, etc., etc. Bon, on poursuit la... voilà, ça peut être des questions d'entrée avec les élèves là-dessus, quoi. Bon, je continue la lecture, donc voilà, après l'introduction, ça commence. Donc, ces dernières années, on a vu paraître de nombreux ouvrages portant sur l'histoire de l'énergie. On peut se réjouir de ce renouveau d'intérêt. On peut aussi regretter que ces ouvrages se soient placés sous la bannière de la transition. Avec l'urgence climatique, ce mot a acquis un tel prestige, une telle centralité que les historiens en sont venus à l'employer pour décrire toutes sortes de processus, y compris ceux qui furent, à rigoureusement parler, des additions énergétiques. La révolution industrielle est ainsi présentée comme une transition du bois vers le charbon, donc du bois dans toutes les sociétés, en fait, humaines, depuis la préhistoire jusqu'en fait, juste avant la révolution industrielle. La révolution industrielle est ainsi présentée comme une transition du bois vers le charbon, comme le passage d'une économie organique, donc des matériaux qui viennent des êtres vivants, à une économie minérale, donc les matériaux qui viennent plutôt des roches. On peut lire dans un ouvrage de référence récent que le pétrole et l'électricité au XXe siècle furent des transitions énergétiques, alors que l'électricité accroît la consommation de houille, la houille c'est un type de charbon, et que le pétrole ne la réduit pas forcément. La vision phasiste du monde matériel, phasiste, c'est-à-dire il y a des grandes phases, c'est-à-dire il y a une phase de bois, puis une phase de charbon, puis une phase de nucléaire, par exemple, pour la France. La vision phasiste du monde matériel est si profondément ancrée que des historiens opposent un 19e siècle du charbon à un 20e siècle du pétrole et en tirent des conclusions hasardeuses sur l'histoire et la nature du pouvoir. La prodigieuse lenteur de l'actuelle transition énergétique n'a pas non plus annulé les présomptions sur celles qui sont supposées avoir eu lieu par le passé. Oui, parce que du coup, ça se base sur... Il y en aurait eu par le passé. Il y aurait eu des transitions, on aurait changé par le passé, comme tu l'as dit. Le problème de ces travaux n'est pas tant que leur base empirique que ceux qu'ils choisissent d'étudier. En se focalisant sur les transitions, l'histoire de l'énergie oriente les leçons que l'on infère, que l'on déduit du passé. Cet article propose d'aborder la question par un autre angle, non pas celui des dynamiques, ni même celui des persistances, mais en considérant les relations symbiotiques qui se nouent entre énergie et matière. Donc vraiment des trucs qui se renforcent. Justement, bon, je ne sais pas s'il y a des choses à... Alors, là, pour le coup, ça permet de poser un cadre. Je pense que bon, c'est pas les parties qu'on va pouvoir traiter le plus avec les élèves. Ça permet de poser vraiment un cadre théorique, quoi.
Oui, ça permet aussi de montrer que, en fait, plus on a de ressources, plus on va en utiliser. Ouais. Et c'est aussi le paradoxe de l'énergie, c'est que plus on a d'énergie, plus on va en utiliser. Et ça participe au fait que voilà, cette transition, c'est essentiellement, surtout à l'heure actuelle, hein, une addition de production d'énergie pour produire toujours plus, encore plus.
Ouais. Et puis avec des dynamiques d'effets rebonds aussi. On peut en parler peut-être aussi sur l'intelligence artificielle, tiens, mais sur quand un quelque chose est plus facilement accessible. Parce qu'il y a eu de la pub, et même quand ils consomment un peu moins, bah du coup, on va paradoxalement du coup, le consommer beaucoup plus, parce qu'on se dit, bah c'est bon, du coup, vu que ça consomme peu. Je continue la lecture de l'article, que vous pouvez trouver en ligne d'ailleurs, hein, il se trouve très facilement si vous tapez le nom dans un moteur de recherche. Symbiose industrielle. Alors, commençons par l'exemple, canonique entre tous, de la révolution industrielle. Depuis les années 1980, les historiens de l'énergie ont ressuscité cette notion en la réinterprétant comme la transition d'une économie organique, l'expression remonte à Werner Sombart, je ne sais pas qui c'est, reposant sur le bois, la force musculaire et l'hydraulique, alors musculaire que ce soit des êtres humains ou des animaux, vers une économie minérale ou un capitalisme fossile, fondé sur le charbon, cette forêt souterraine qui permit à l'Europe d'échapper à la contrainte photosynthétique, ouais, puisqu'on dépendait de la quantité de bois, etc., qui poussait chaque année, de plantes qui poussaient chaque année, dépendant donc de l'ensoleillement. Et ça, bien sûr, on en dépend. On pense en dépendre moins, et on va voir que. Cette interprétation repose sur des calculs énergétiques qui tendent à minorer le rôle des énergies dites traditionnelles et qui accentuent la révolution produite par le charbon. Derrière la froide objectivité des courbes énergétiques ascendantes du XVIe au XIXe siècle se cachent des choix discutables sur ce qui entre dans le calcul. Alors, je pense que là, on va commencer à rentrer dans ce qu'on projette aux élèves, justement, ce qu'on leur montre, ce qu'on leur fait travailler. Par exemple, selon les données collectées par Paul Vard, qui sont à l'arrière-plan des analyses d'Anthony Rigley ou de Václav Smil sur la révolution industrielle, le bois ne jouerait plus aucun rôle dans le mix énergétique britannique au milieu du XIXe siècle. Pourtant, les mines de charbon anglaises engloutissent d'énormes quantités de bois, des poutres, des étais, des perches et des planches, destinées à boiser les galeries. En tout, 4,5 millions de tonnes rien qu'en 1913. Cela signifie qu'en 1913, la Grande-Bretagne utilisait beaucoup plus de bois pour extraire son charbon qu'elle n'en brûlait au milieu du XVIIIe siècle. Malgré des efforts d'économie réalisés au mépris de la sécurité des mineurs, bah oui, si on met moins de bois, les galeries s'effondrent, la consommation de bois d'œuvre demeure proportionnelle à l'extraction de charbon. En France, de l'ordre de 3,4% du charbon extrait. Loin jusqu'à très tard dans le XXe siècle. Cet exemple témoigne d'un phénomène général, bien plus qu'une transition du bois vers le charbon ou des matières organiques vers les matières minérales. L'industrialisation fut avant tout une mise en relation symbiotique des trois règnes. Alors là, il utilise une expression qui est un peu désuète en science, qui est les trois règnes. Il y a le règne végétal, le règne animal et le règne organique minéral. Moi-même, je me perds, mais qui a disparu hein, cette notion-là. Alors là, justement, je vous disais juste pendant la lecture du paragraphe qu'on touche à ce qu'on présente souvent aux élèves. Et souvent, un des graphiques les plus les plus célèbres, c'est les graphiques où on regarde les proportions de chacune des matières. Et c'est vrai que si on regarde en proportion, le charbon, le pétrole, etc., ils ne font qu'augmenter pour l'énergie par rapport au bois qui diminue de plus en plus. Mais c'est en proportion. Alors que, si on regarde en tonnage pur, en masse, bah en fait, le bois, c'est toujours de plus en plus, le charbon, toujours de plus en plus, le pétrole, toujours de plus en plus. Donc, déjà, à ce niveau-là, il y a une orientation sur... si on présente que la partie en proportion de chaque matière, on va masquer une partie de la réalité, finalement, aux élèves. Et souvent, ça, c'est celui-là qui est le plus courant dans les manuels scolaires, etc., etc. Plutôt que de s'intéresser à l'augmentation qui est permanente de l'énergie utilisée sur Terre. Je continue la lecture. Cette relation était une évidence pour tous les forestiers de l'époque. L'un d'eux se gausse des jugements superficiels de ceux qui se figurent que grâce à l'emploi du fer, de l'acier ou du charbon, le bois est un produit de plus en plus délaissé. Pendant tout le 19e siècle, l'utilisation du bois de feu, donc pour se chauffer, résiste bien face au charbon. Enfin, bois de feu pour chauffer, pour brûler, quoi. Au début du 20e siècle, les forestiers Zone et Sparhawk estiment qu'en Amérique du Nord, comme en Europe, près de la moitié du bois est abattu pour être brûlé ou carbonisé. Ce serait 80% sur les autres continents. Aux États-Unis, la sidérurgie au bois continue de croître jusqu'aux années 1890. Son déclin date seulement de l'entre-deux-guerres. La France brûlait 20 millions de mètres cubes de bois en 1876 et encore 17 millions en 1908. La baisse du bois de feu ne concerne surtout les villes. À Paris, elle est compensée par la montée de la houille, bien sûr, mais aussi par celle du charbon de bois, dont la consommation croît, par habitant croît jusque dans le dernier quart du 19e siècle. Oui, pour la précision, c'est parce que, pareil, quand les élèves, si les élèves étudient comment on fabrique tel ou tel truc, si, pour fabriquer de l'acier, il faut un peu de carbone. L'acier, c'est du fer plus du carbone. Ça augmente grandement la résistance du fer de mettre du carbone à l'intérieur. Donc, pour pouvoir faire des gratte-ciels, ponts, etc., etc. Et le carbone, il peut provenir soit de charbon, soit de bois. Et donc, c'est pour ça que si on veut faire la sidérurgie, en fait, à un moment, il faut. Ce carbone ne vient pas de nulle part. Je continue la lecture. À cette date, la chimie prend le relais. Les forêts de Lyon et du Nivernais qui approvisionnaient Paris sont dorénavant exploitées sur place grâce à l'industrie de la pyrolyse du bois qui, à la fin des années 1880, s'implante dans les points névralgiques du flottage. Les méthodes modernes de carbonisation permettent d'obtenir de meilleurs rendements, donc davantage de charbon, et surtout de récupérer des produits chimiques à forte valeur ajoutée, qui incitent à produire davantage de charbon. La fin du flottage sur Lyon dans les années 1920 n'est donc pas le signe d'un déclin du bois énergie, mais plutôt celui de sa reconfiguration par la chimie industrielle. Alors deux termes qui... Voilà, la pyrolyse, c'est le fait de brûler le bois pour en récupérer des choses, à très haute température. Et il parle du flottage. Le flottage, c'est une vieille technique qui est plus trop employée, qui consiste à constituer des grands radeaux avec le bois qu'on a coupé et de les amener, de les faire se déplacer sur les rivières.
En coulant le long de la rivière.
Ouais, c'est ça. Lyon, c'était très pratique puisque Lyon, c'est un affluent de la Seine et donc ça arrivait directement à Paris. Mmh. Et donc, comme ils disent, en fait, les forêts, elles sont pas moins coupées. En fait, elles sont moins coupées. Enfin, le bois, c'est la destination du bois qui change. Avant, il était destiné pour le flottage, donc pour soit du bois de chauffe, soit du bois d'œuvre. Mais maintenant, en fait, il part dans la chimie. Avec, voilà. Parce que la chimie qu'on a actuellement sur la chimie du pétrole, qui permet de produire des médicaments, des plastiques, etc., en fait, elle date du bois. En fait, c'est sur le bois que ça a été développé. Je poursuis. À moins que Paul Je poursuis. Même si le bois de feu recule dans certains pays ou certaines industries, ce recul est largement compensé par l'augmentation de la consommation de bois d'œuvre. La consommation britannique de bois d'œuvre est ainsi multipliée par 6 entre 1830 et 1930, et par 3 rapportée au nombre d'habitants. De tous les pays européens, c'est la Grande-Bretagne championne du charbon, qui importe aussi le plus de bois. 12 millions de mètres cubes à la fin du 19e siècle, soit 2,5 fois la production des forêts françaises. Grâce au progrès des transports, elle peut s'approvisionner en quantité croissante à un prix décroissant, 35% dans le dernier quart du 19e siècle. D'autres pays européens mieux dotés en forêts suivent aussi dans cette tendance. La Belgique voit ses importations multipliées par 6 entre 1860 et 1900, et l'Allemagne, malgré ses forêts résineuses de plaine à fort rendement, double les siennes entre 1888 et 1898. La France, qui dispose surtout de forêts de taillis pour le bois à brûler, est obligée vers la fin du 19e siècle d'importer 3 millions de mètres cubes de bois d'œuvre, soit la moitié de sa production nationale. C'est marrant parce que, en lisant le truc, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, la France, mais d'où est-ce qu'il vient ce bois ? Et d'où est-ce qu'il vient ce bois qui est importé ? Parce que. On se demande.
On se demande bien.
On se demande. Bah. Bon, je pense que les États-Unis doivent envoyer. Les États-Unis et le Canada doivent envoyer une grosse partie. Mais alors, qu'est-ce que ça a dû déboiser dans les colonies ?
Ah oui, bah, bien sûr.
Ah là là là.
Ah bah là.
En plus, bien sûr, de tout le reste qu'on y faisait dans les colonies.
Oui.
Ouais. Je poursuis. Que fait-on de tout ce bois d'œuvre ? Avec des variations nationales, la construction arrive en tête. Ensuite, la production de papier, les transports, l'emballage. D'autres usages massifs sont tombés dans l'oubli. Au début du XXe siècle, la plupart des grandes artères londoniennes sont recouvertes de pavés de bois. Comme l'est un cinquième des chaussées parisiennes. Ah, parce que ça. Alors, certes, ça glisse, mais c'est beaucoup plus confortable de rouler sur du bois que de rouler sur des pavés. Et donc là, on voit aussi que si on veut rouler en voiture à l'époque, ça consomme l'acier pour construire la voiture, plus le pétrole pour faire tourner le moteur, plus les matériaux pour la chaussée, bah là, en l'occurrence...
Des pavés en bois.
À l'époque, du bois.
Ça devait être effectivement bien, bien glissant.
L'hiver, ça, je crois que c'est pour ça qu'ils ont arrêté. L'hiver, l'hiver c'est l'enfer pour les piétons.
C'est pire.
Je continue. Les techniques emblématiques de la révolution industrielle reposent sur le bois. Les chemins de fer auraient tout aussi bien pu s'appeler chemin de bois. Dans les années 1890, la maintenance du chemin du réseau américain requiert 73 millions de traverses par an, soit 14 millions de mètres cubes de grumes, une production équivalente à 20 millions d'hectares de forêt. Donc les grumes, c'est les troncs d'arbres, une fois qu'ils ont été coupés, sans les branches, avec ou sans l'écorce, prêts à partir débités en planches, en poutres. Un dixième de la production forestière des États-Unis serait ainsi consacré au train. Au même moment, la consommation de fer pour les rails était de 1,5 million de tonnes par an. C'est à peu près la même masse. Du coup, 1,5 million de tonnes de fer, 1,5 million de tonnes de bois. Mais bon, c'est plus emblématique et c'est plus classe d'appeler ça le chemin de fer finalement.
Ouais, que le chemin de bois.
Ça fait un peu. Ça fait plouc. C'est pas le progrès quoi. Et en plus, les fabricants de locomotives préféraient recourir à des aciers de luxe, issus de la sidérurgie au bois, au moins pour les chaudières et les essieux, puisqu'ils sont moins cassants que l'acier au coke. Le coke, c'est un type de charbon. Enfin, c'est une des étapes quand on brûle le charbon. La construction, je poursuis, la construction repose aussi sur une alliance du bois et du charbon. La cuisson des briques est un gouffre énergétique, le troisième consommateur industriel de charbon américain et le premier poste de consommation de bois d'œuvre. De manière plus anecdotique, même si en fait c'est, bon, je trouve ça hyper intéressant, le fameux palais de cristal de l'exposition universelle de Londres en 1851, symbole de la modernité, c'est du fer et du verre, c'est des trucs voilà, vraiment typiques révolution industrielle, comportait au moins trois fois plus de bois que de fonte. Une des vraies innovations liées à ce bâtiment, inspirée des serres, réside dans la production mécanique de pièces en bois standardisées. Ah, pareil, parce que le bois, en fait, je ne sais plus si la suite de l'article en parlera, mais le bois, si on peut l'utiliser de cette manière actuellement, c'est que on a augmenté l'efficacité de la découpe du bois. Si on peut avoir autant de planches, autant de pieds, de meubles, autant de poutres, etc. dans les maisons, c'est parce que c'est devenu hyper facile avec les machines, et donc du pétrole et du charbon, de les découper, d'en faire... voilà, vraiment ce truc toujours de symbiose, quoi, comme...
Et de pièces standardisées qui peuvent s'emboîter facilement.
Oui, c'est ça. Alors qu'avant, c'était de l'art, c'était plus artisanal, donc ça pouvait, c'était pas transposable. Oui, oui, parce que souvent le bois, on a tendance aussi à le voir comme un quelque chose du Moyen-Âge, toujours très lié à l'artisanat, alors qu'en fait, on voit bien que pas du tout. Ça, ça peut être pareil des choses que je sais pas. Là, je connais pas les problèmes de technologie, mais c'est les problèmes de technologie qui s'intéressent à la production des objets. Je sais pas si. Je ne sais pas si ça pourrait faire partie de choses intéressantes, pareil, à traiter avec les élèves. Je poursuis. Certaines innovations industrielles eurent aussi un rôle essentiel dans l'augmentation de la production de bois. On pense notamment aux technologies d'attaque, les chemins de fer qui ouvrent de nouveaux fronts à l'exploitation forestière ou les scieries à vapeur, voilà, la conquête, la fameuse conquête de l'Ouest. Hein. Mais dans ce domaine, la vraie révolution aura lieu plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, avec la diffusion de la tronçonneuse et des engins forestiers. La grande innovation du 19e qui accroît indirectement la production de bois, c'est le papier de cellulose. Au début du 20e siècle, dans les pays riches, le papier est le troisième poste de consommation de bois après l'énergie et la construction. Il s'agit d'une alliance à part égale de bois et de charbon, chaque tonne de papier nécessitant environ une tonne et demie de chacune de ces matières, en plus de produits chimiques. Son intérêt est de valoriser les immenses forêts de résineux du Canada et des pays scandinaves, d'utiliser des bois plus jeunes et donc de permettre des rotations forestières plus rapides. À travers l'industrie papetière, le charbon accroît donc la production de bois. Ouais, puisqu'avant, c'était des peaux animales, du papier. Ouais, c'est un peu du papyrus, mais c'était un peu à la marche, quoi.
Et effectivement, on peut voir que dans... ça, c'est intéressant aussi, même pour les élèves. Le bilan, un peu, c'est que... Bon, à cette époque-là, pour produire une tonne de papier, il fallait 3 tonnes de matériaux.
Ouais.
Plus des produits chimiques. Donc, et c'est souvent ce qu'on disait au début. On a l'impression que les objets qu'on voit, ils ont été créés facilement, et que ça n'a pas nécessité grand-chose. On s'imagine souvent qu'une feuille de papier, c'est, comme c'est tout petit, c'est très fin, on n'a pas dû dépenser beaucoup d'énergie pour la fabriquer. On n'a peut-être pas utilisé beaucoup de matériaux et a priori peut-être pas trop de la chimie. En fait, si, constamment, on a besoin de ressources, on a besoin de grandes quantités de ressources et d'énergie pour produire les objets, même les plus qui non, semblent les plus anodins.
Oui, et qu'en fait, on va souvent citer, enfin, pour la question de l'écologie, de la transition écologique, on va souvent dire il faut diminuer l'utilisation. J'ai ma voiture, je roule moins avec pour faire des économies de carburant. Mais en fait, il a fallu beaucoup de choses pour la produire déjà. La production, l'utilisation, elle est entre les mains des gens. Et ça, forcément, dans un système libéral, on va inciter les gens à essayer de moins utiliser. Ce qui est, voilà, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Mais l'essentiel de la pollution, en fait, elle viendra de la production, et ça, la production, les travailleurs et travailleuses n'ont pas la main dessus, quoi. Et je vois que il est à peu près 9h, donc ça va faire une petite... on a déjà pas mal parlé, là, on est à peu près à la moitié de l'article, donc je vous propose, si ça vous va, de faire une petite pause musicale, si ça va à Panna Cotta en régie, avec Issa Yasuke, j'ai bien prononcé, on me l'a dit.
Je crois, oui.
Je crois. Ouais. Issa Yasuke, mais j'ai pas. Tu peux me lire le.
Cinquième roue.
Cinquième roue. Bonne écoute. Merci. A tout de suite.
A tout de suite.
Yeah. 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 J'étais la cinquième roue du carrosse. Est-ce que t'as déjà vu un char à cinq roues? Toujours tête dans la lune, dans le gamos. Mon esprit est le leur, jamais synchro. 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 Jamais synchro. Yeah. Le cœur enseigne, vu qu'il est carencé. Vite, fais le gars, au cerf, long caillassé. Enfermé comme dans car, en sac. Car on sait que le cœur est sick. Le cœur est sick. Donne-moi la preuve par toi, un peu comme dans un triptyque. Que toutes mes peurs par toi finiront isolées dans un roman fictif. Donne-moi la preuve par toi, qu'Allah me facilite. De mon destin, je serai leader. Partie des bafons, allez, je finirai pas alité. C'est fou de voir sa daronne en HP. Et là, le jeune H perd sa naïveté. A foutu le camp comme l'air que j'expire. Les pédophiles seront jamais, jamais, jamais des exports. L'impunité fait rage. J'exaspère le chemin vers le tout-puissant. C'est ça que j'aspire. À mieux. Infini, comme décimal de pi. Infime, la ligne entre des terres et des pi. Infini, comme décimal de pi. Affiné, la trajectoire et tout ça de spi. Cinquième roue. Loin du foyer, l'œil est vif et pourtant je voyais pas les vices. Les potards déguisés en putain de voyeur. J'ai fait ce qui comme je pouvais, mais c'est seulement dans la nuit que tu vois qui est qui. Je pouvais pas croire que tout ça la couvait. C'est dur comme Pierre Vita à la suite Ken Kanaki. J'essaie de me dire que tout est passé comme un participe. Je connais bien les jeux, puis maintenant je peux les anticiper. J'ai cru voir un bout de les nuages, je vais les dissiper. Maintenant je sais qu'il faut le jeu, faire ça en bon disciple. Même si d'ici il pleut, Même si d'ici il pleut, Même si d'ici il pleut,
toujours sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez l'émission de la CNT Éducation 93, le syndicat des travailleurs et travailleuses de l'éducation de Seine-Saint-Denis. Et on continue la lecture de notre article de Jean-Baptiste Ressoz pour une histoire des symbioses énergétiques et matérielles, de comment est-ce que nous le traitons, comment est-ce que ça influence notre pratique en classe, dont on, voilà, on égrène un petit peu des choses, et puis je pense qu'après on développera un peu plus. Je poursuis. Vous pourriez facilement traverser tout le nord de l'Angleterre, écrivait George Orwell en 1937, sans vous rendre compte que 100 mètres au-dessous de la route, des mineurs sont en train de tailler du charbon. Pourtant, ajoutait-il, ce sont eux qui font avancer la voiture. Pressé de raconter l'épopée du pétrole et de l'électricité, les historiens filent aussi à toute vitesse vers le futur. Passé le cap des années 1900, le charbon passe à l'arrière-plan, analysé en tant que persistance de l'ancien, alors que même sa plus forte croissance a eu lieu dans les années 2000. Voilà, on reboucle sur ce que je disais au début. Voilà. C'est quoi le siècle du charbon? Spontanément, 19e siècle. Alors peut-être que les élèves n'ont pas spécialement d'idées préconçues sur la question, mais je pense que dans la société c'est assez marqué, quoi.
Oui, parce qu'on est marqué principalement par l'histoire européenne et que le reste du monde n'existe quasiment pas.
C'est ça.
Et quand dans les années 2000, clairement c'était quand même plutôt ce qu'on appelle les pays émergents, je sais pas comment on les appelle actuellement, mais qui justement ont adopté cette technologie et l'ont utilisée en masse.
Oui, bien sûr. Je continue. Si le pétrole s'ajoute au charbon plus qu'il ne le remplace, c'est parce que les deux matières n'entrent que marginalement en concurrence. Les spécialistes des années 30 insistent au contraire sur leur complémentarité et même sur leur solidarité. Ouais, c'est une solidarité dont on se serait bien passé, c'est celle-ci ouais. Finalement.
Merci.
Un peu comme l'alliance du fascisme et du capital, quoi. Le pétrole permet surtout de nouveaux usages. Et au premier chef, de faire rouler des camions et des voitures. Or, l'automobile, par ses consommations induites, c'est-à-dire ce qu'elle déclenche juste en existant, consomme davantage de charbon que de pétrole. En 1934, l'ingénieur en chef de l'Anglo-Iranian Company, ah, on retrouve le colonialisme, calcule que dans l'industrie automobile, la construction des pétroliers, des réservoirs et des raffineries britanniques ont requis 13 millions de tonnes d'acier de 1918 à 1934 et donc 53 millions de tonnes de charbon. Alors on voit le rapport aussi, hein, 13 millions de tonnes d'acier, 53 millions de tonnes de charbon pour le fabriquer. C'est un rapport de voilà, pour 5. 5 fois plus. La Grande-Bretagne ayant consommé que 21 millions de tonnes de pétrole sur la même période, il en concluait que chaque tonne de pétrole avait nécessité 2,5 tonnes de charbon. Louis Pinault, directeur de l'Office français des combustibles liquides, arrive à un résultat comparable. La production d'une voiture en France nécessitait à peu près autant de charbon, 7 tonnes, qu'elle ne consommait d'essence sur la totalité de son cycle d'usage. Conclusion, le pétrole épaule le charbon. Ces calculs sont des estimations basses, puisqu'il faudrait y ajouter le charbon employé à l'adaptation du réseau routier, ou encore celui nécessaire au raffinage et au transport du pétrole. Et oui, parce que bah, faut fabriquer des routes, pour fabriquer des routes, il faut du béton.
Et il faut donc d'autres véhicules qui ouais, utilisent ouais, c'est ça. Aussi. C'est ça.
En fait, Orwell ne croyait pas si bien dire. Avant la Seconde Guerre mondiale, le charbon a effectivement fait rouler de nombreuses voitures, car on en tirait du benzol, un carburant qui améliorait la qualité anti-détonante de l'essence. Ouais, parce que les moteurs à l'époque...
Ça a explosé beaucoup.
C'était quelque chose. Dans les années 1900, en France, la plupart des autobus et la majorité des automobiles roulent non pas à l'essence de pétrole, mais justement au benzol. Selon un journaliste de l'époque, c'est le benzol qui a développé l'automobile. Pendant la Première Guerre mondiale, les États belligérants obligent les coqueries et les usines à gaz à récupérer le benzol, qui est aussi un composant des explosifs. La production s'accroît fortement dans l'entre-deux-guerres, en lien avec la perspective d'un conflit militaire. En France, le gouvernement encourage l'utilisation d'un mélange de benzol et d'alcool, dénommé le « carburant national ». Dans les grands pays charbonniers, le benzol joue un rôle non négligeable. En Angleterre, il représente un dixième de l'essence, et même jusqu'à un quart en Allemagne. Il y a deux choses qui sont intéressantes, je trouve, dans cette... Un, c'est que en fait, il enchaîne un peu des trucs qui paraissent un peu des fun facts, mais qui en fait, quand on les additionne un peu ensemble, révèle l'idéologie vraiment, enfin une forme d'idéologie sous-jacente vraiment de toujours plus, vraiment une fuite en avant de. Ah, on a trouvé ça, donc on va créer ça, donc on va faire ça, etc. Ça.
En rajouter systématiquement.
Ouais, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est le lien entre l'industrie de la guerre, quelque chose qu'on a tendance à oublier, hein, puis là, qui revient à vitesse grand V avec, avec l'Ukraine. Et puis sur. Lui, il parle de symbiose des énergies, mais en fait, on voit aussi la symbiose des industries. En fait, les industries, elles sont surtout pas à prendre indépendamment. S'il y a une industrie de la voiture, avec le lobby qu'on connaît sur il faut rouler en voiture, surtout en France où on a des marques françaises, quoi. Et s'il y a une industrie de la voiture, il faut une industrie du bois ou une industrie et une industrie du pétrole et une industrie du charbon et ouais. En fait, c'est omnipotent, quoi.
Et quand ces industries se développent, à un moment, elles peuvent aussi faire des armes.
C'est ça. Il y a des sous-produits. Ces sous-produits, s'ils sont explosifs, plutôt pratiques, hein, finalement. Hein. Fantastique. Je poursuis. Pendant la guerre froide, le pétrole ne joue qu'un rôle secondaire. en tant qu'énergie industrielle. La période correspondant plutôt à l'apogée du charbon qui se modernise sous la houlette d'État dirigiste. L'Angleterre connaît son pic de consommation en 1956. Le charbon représenterait alors 95% de son énergie primaire. En France, le pic de consommation est atteint en 1962, avec 75 millions de tonnes. L'électrification renforce encore la centralité du charbon. Des centrales thermiques sont établies directement dans les bassins houillers, les plus grandes pouvant engloutir 4 millions de tonnes de charbon par an. La politique suivie dans les pays capitalistes n'est pas de favoriser le pétrole, mais plutôt de gérer au mieux sa coexistence avec le charbon. Au premier, donc, au pétrole, on en tire l'essence, les lubrifiants, les plastiques, c'est les plus rémunérateurs de ce qu'on peut en tirer. Et pour le charbon, la production électrique, le ciment et la sidérurgie. Les progrès dans le raffinage permettent justement de réduire la part des fractions lourdes destinées à l'industrie. La consommation du fioul industriel ne décolle en Europe qu'à partir de 1958, avec l'afflux de pétrole moyen-oriental bon marché et la diffusion véritablement massive d'automobiles qui rendent le pétrole compétitif par rapport au charbon. Ouais, là on commence aussi à amorcer le côté sur l'électricité, surtout avec le biais en France de l'électricité qui est pas chère, abondante avec le nucléaire.
Nucléaire.
C'est ça. Nucléaire qu'il faut pas. Voilà. De nouveau, le nucléaire pour se construire ne se construit pas tout seul. Il faut du béton, donc voilà, etc. etc.
Oui, et puis la dernière centrale qui ne fonctionne toujours pas.
Oui, ou sur trois pattes, là, l'EPR à Flamanville.
Oui, il y en a des milliers de tonnes d'acier là-dedans. Oui.
Alors là, on va passer à une partie qui devrait intéresser aussi Panna Cotta et les camarades qui nous écoutent. On touche à l'histoire des syndicats, finalement. Et je fais un peu de teasing pour une émission qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année scolaire, peut-être le mois de juin, sur l'histoire des mouvements sociaux. Ça va en parler. Je poursuis. Contrairement à l'hypothèse de Tim Mitchell, ce n'est donc pas une transition inexistante vers le pétrole qui a pu dompter les mineurs. Oui, parce que souvent, ah oui, je me rappelle de ce truc-là, c'est que souvent on dit, ah oui, c'est parce qu'il y a eu plus de pétrole, du coup ça a permis de faire diminuer le charbon, et donc on a pu casser les mineurs. En France, la grande grève de 47-48 dans les charbonnages du Nord fut vaincue grâce à la répression militaire, au licenciement, et surtout grâce au charbon américain et allemand. Pour briser la grève, le gouvernement français importe jusqu'à 1 million de tonnes de charbon des États-Unis par mois grâce au plan Marshall. Celui-ci, parfois présenté comme le cheval de Troie du pétrole en Europe de l'Ouest, a davantage contribué à la modernisation des mines. En France, après EDF, c'est Charbonnage de France qui reçoit le plus d'argent du plan Marshall. Le charbon est au cœur de la stratégie des États-Unis en Europe. C'est sous leur égide qu'est lancé le grand plan. Charbon pour l'Europe. Son but, reconstruire et intégrer l'industrie européenne grâce au charbon de la Ruhr, tout en ménageant des débouchés à leur propre houillère. Une mine de charbon. On en tire de la houille. Un type de charbon. Houille avec un H. Je ne sais pas s'il y a un lien avec la ville de Houille dans les Yvelines.
Ni avec Monsieur Houille.
Ouais. Voilà. L'administration du plan Marshall considère d'un mauvais œil la politique pétrolière expansionniste de la France qui cherche à renforcer sa souveraineté énergétique. Ah oui, puisque à ce moment-là, on a dû découvrir quelques puits dans un des départements de l'autre côté de la Méditerranée.
Même de l'autre côté de l'Atlantique aussi, on en a trouvé, il me semble. Mais ouais. C'est vrai que oui, à l'époque, c'était
oui, surtout... Ça, tout à fait. Ce plan qui deviendra celui de Schuman en 1950, puis la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, en 1954, permet de protéger le gouvernement français des mineurs cégétistes du Nord, puisqu'il est possible dorénavant de puiser dans le charbon allemand. Enfin, le déclin du charbon en France, après le plan Jeannenet de 1962, est beaucoup plus spectaculaire en valeur relative, du fait de... parce qu'on fait rentrer du pétrole venant du Moyen-Orient, qui est bon marché, qu'en valeur absolue. La France en consomme encore entre 40 et 50 millions de tonnes dans les années 70-80, c'est-à-dire deux fois plus qu'un siècle auparavant. Ouais, donc, ouais, c'est... est vraiment là, à l'âge de la globalisation de l'énergie, vraiment. La Seconde Guerre mondiale, là, c'est l'expansion
et complète. Et l'utilisation massive d'énergie tout le temps.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'avant la Seconde, en fait, il y avait encore beaucoup de... Avec la paysannerie, etc., il y avait encore... C'était encore... C'était énorme déjà, mais c'était pas présent dans tous les aspects de la société. Et là, on voit que, en fait, là, ça... C'est... On voit que, surtout au niveau énergétique, ça explose, quoi. Je poursuis. La vague de globalisation et la révolution néolibérale des années 80 se sont aussi parfaitement accommodées du charbon. Aux États-Unis, l'élection de Ronald Reagan, n'est pas un camarade, marque le début d'une énorme croissance charbonnière lancée par les chocs pétroliers et qui aboutira en 2008 au pic historique de la consommation américaine à 1,2 milliard de tonnes par an. Bien plus que le pétrole, c'est l'évolution technologique du charbon qui a transformé la culture politique des mineurs. L'extraction aux États-Unis migre des mines de Pennsylvanie vers le Wyoming, des bastions ouvriers socialistes au Midwest, agricoles et républicains. L'activité minière se transforme. Plutôt que d'extraire le charbon du sous-sol, d'immenses engins enlèvent le sol qui se trouve au-dessus de lui. Résultat, la productivité des mines triple aux États-Unis entre 80 et 95. L'ouvrier des mines à ciel ouvert du Wyoming extrait 20 tonnes de charbon par jour, contre 1,5 tonnes pour les charbonnages en France dans les années 80. De même, en Allemagne, ce n'est pas le pétrole qui remplace le charbon, mais la lignite exploitée à ciel ouvert. Le charbon a aussi alimenté le rattrapage économique de la Chine, lui-même accéléré par la globalisation néolibérale. La consommation chinoise passe de 1,5 milliard de tonnes à 4 milliards de tonnes entre 2000 et 2015. Chaque année, la Chine brûle à peu près autant de charbon que la France dans toute son histoire. Le charbon n'est pas une énergie qui serait moins moderne que le pétrole. Il est tout autant l'énergie de la révolution industrielle que celle d'Internet, qui n'est au fond qu'un réseau supplémentaire d'électrons. Petit teasing vers la partie sur l'intelligence artificielle, finalement.
Bien vu.
Ouais. Bien vu, monsieur Fressos, bien vu. Notons que pour finir, si l'énergie focalise attention, son histoire n'est absolument pas exceptionnelle. Au cours des deux derniers siècles, l'éventail des matières premières utilisées s'élargit sans cesse, et chacune des matières est consommée en quantité croissante. Les matières premières ne deviennent jamais obsolètes, et les processus de substitution sont largement compensés par les effets rebonds ou les réorientations d'usage. Donc c'est quand il y avait un produit qu'on utilisait pour un usage. Alors là, il me vient en tête l'industrie du coton à la Première Guerre mondiale, qu'on utilise beaucoup pour soigner les soldats, et qui sera réorientée après pour l'industrie des protections hygiéniques pour les femmes. Mmh. On avait, ouais. Ouais, ouais. Vu dans des bouquins de Jeanne Guyen. Plein de trucs hyper intéressants. Allez lire ce qu'elle écrit ou ce qu'elle dit dans les podcasts. C'est toujours hyper bien. Entre 1900 et 2015, le poids total des matières premières consommées par l'énergie mondiale a été multiplié par 12. Depuis la Seconde Guerre mondiale, malgré la prolifération des produits de synthèse, plastique, etc., aucune grande matière première n'a décru, hormis la laine de mouton, qui recule face aux fibres synthétiques, ce qui n'est d'ailleurs pas une bonne nouvelle pour l'environnement. Donc même si, bien sûr, l'élevage émet des gaz à effet de serre à un moment ou à un autre, et puis on peut se poser la question de l'éthique, puisque même si, juste pour la laine, a priori, on ne tue pas les moutons, normalement. En vrai, bien sûr que si, bien sûr que si. Mais bon, face aux fibres synthétiques, c'est les fibres, voilà, l'explosion des fibres synthétiques, les mélanges, il y en a partout hein, maintenant. Mmh. Et après, ça fait des pollutions de plastique énormes, ça part dans nos machines, ça en y... enfin, oui, rien ça. Qu'à la fabrication, le port, c'est délirant. Entre 1960 et 2010, sur les 69 principales matières premières, seules 6 ont vu leur consommation mondiale décliner. Et pour 5 d'entre elles, cette décroissance est due à leur toxicité et des interdictions prononcées au plan national. Malgré la crise environnementale et la crise financière de 2008, la consommation matérielle mondiale s'accélère. Elle a cru de 53% entre 2002 et 2015. Entre ces deux dates, on a extrait 1000 milliards de matière du sol, soit un tiers de tout ce qui avait été extrait depuis 90. Depuis 1900. Ouais. Voilà. Alors, à titre personnel, quand on lit tout ça aussi, je vois pas comment on ne peut pas... Bon, déjà, on est saisi par l'immensité des chiffres. C'est gigantesque. Mais derrière, enfin, je vois pas comment on peut pas déprimer. En fait, quand on se dit... Enfin, bien sûr que... on veut changer les choses, la révolution, tout ça. Mais voilà... C'est l'intégralité d'une société qu'il faut repenser. C'est... Là, on voit que voilà, tout... C'est pas... presque dû. On tomberait presque dans le complotisme en disant ça, mais tout est lié, enfin voilà, tout est lié, tout est connecté. C'est... Et on passe à la conclusion. Avant peut-être de s'écouter un son et donc de décrire un petit peu comment on utilise tout ça avec les élèves. Mmh. Au-delà de tous ces petits trucs qu'on peut glisser dans nos cours, quoi. Notamment voilà, cours d'histoire, cours de SVT. Conclusion. Dans les années 80, au moment où une nouvelle vague de charbon déferlait sur le monde, la transition devint la grande préoccupation des historiens de l'énergie. Il faut voir dans ce paradoxe l'influence de la prospective énergétique, très en vogue depuis les années 70. Le discours de la transition émerge dans le milieu des futurologues, qui pensent l'avenir énergétique des États-Unis après les chocs pétroliers. Si cette notion n'est pas un bon descripteur du passé, c'est que ce n'était tout simplement pas son but initial. Et si elle a séduit les historiens, c'est parce qu'elle leur donnait aussi une certaine importance. En parlant la langue des technocrates, des pans entiers de l'historiographie, l'histoire économique, l'histoire des techniques, la révolution industrielle, semblaient soudainement acquérir une grande pertinence pour penser les défis du futur. Connaissant les ressorts des transitions énergétiques passées, les historiens pourraient ainsi devenir des experts de la transition à venir. Le problème est que cette notion ne rendait pas du tout compte de la nature cumulative et symbiotique du passé énergétique et matériel. Elle permettait par contre d'imaginer une économie décarbonée comme la suite, voire l'aboutissement d'un majestueux processus historique amorcé il y a 2 siècles. Le problème de la transition énergétique est qu'elle projette un passé qui n'existe pas sur un futur qui reste fantomatique. Va falloir décompresser avec un peu de musique.
Oui.
Ouais.
Conclusion. Un petit peu anxiogène.
Un peu.
Du coup, on va écouter System of a Down, Science.
Ah, Science. Beaucoup de science.
Pour
beaucoup
la science. Science.
Things we all know, fighting off the disease, programming of centuries.
Bonsoir.
Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Je parle de manière très hachée parce que on vient de se rasseoir, panique dans le studio.
Ah, désolé.
Merci. Vous êtes donc toujours sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez l'émission de la CNT Éducation 93, le syndicat des travailleuses de l'éducation en Seine-Saint-Denis 93, indépendant, bien sûr. Alors, après avoir lu cet article, ma foi, très intéressant, de Jean-Baptiste Fressoz, qu'est-ce que on utilise précisément avec nos élèves? Comment on reconsidère peut-être un peu nos matières? Pourquoi je dis ça? Parce que juste en discutant avec Panacotta, qui me faisait souligner ce que disait System of a Down dans leur chanson, c'est Science has failed on Mother Earth. Je crois que c'est ça qui est dit. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, souvent on confond science, technique, technologie. Parce qu'en fait, oui, malheureusement, beaucoup trop souvent, la science a été utilisée pour faire des progrès techniques, des progrès, entre guillemets, techniques, que globalement la population n'avait pas vraiment choisi, parce que, voilà, ça sortait des universités, c'était des brevets, c'était des choses comme ça. Plutôt que... Donc c'est cette confusion-là, alors que les sciences... Alors, c'est peut-être un peu noble de parler comme ça, mais c'est quelque chose qui est normalement beaucoup plus sur comprendre le monde. On est à la limite de la, presque parfois de la philosophie, quoi. C'est un premier pas vers changer un peu le mode de considérer autrement nos matières que par une simple accumulation de trucs techniques, etc., ou de gestes techniques. Souvent en SVT ou en physique-chimie, d'ailleurs, c'est ça, on va faire de l'accumulation de travaux pratiques, etc. Plutôt que de faire réfléchir. Alors, de faire réfléchir nos élèves. Alors, on le fait aussi parce que le programme est fait comme ça. Voilà, il y a aussi des choix qu'on... On est aussi lié par ça. Il y a les programmes, il y a les examens en fin d'année, etc. Bien sûr, on peut pas tout. C'est pas du jour au lendemain que nous, dans la salle de classe, on va faire le truc révolutionnaire. Mais rien que ça, c'est peut-être un premier pas pour dire autre chose à nos élèves et faire envisager et faire des activités différentes pour amener d'autres choses, les faire penser autrement. Quoi. Alors justement, bon, on l'a dit tout à l'heure. Déjà, on ne montre plus. Il faut essayer de plus montrer le fameux graphique avec les proportions des énergies qui se voilà. Parce qu'on voit que le bois diminue. Le bois ne diminue pas, il s'additionne, voilà.
À moins justement d'en faire une séance spécifique pour montrer la différence entre des calculs relatifs et les calculs absolus.
Oui, construction graphique.
C'est une séance que je fais, moi, de temps en temps. Voilà, parce que aussi, souvent, les élèves sont confrontés dans leur propre vie à des graphiques. Et souvent, ils sont exprimés en pourcentage. Et le fait d'utiliser des pourcentages, souvent, ça induit quand même des petits biais sur... si le pourcentage baisse, on a l'impression que l'utilisation baisse également. Oui. Ce qui n'est pas forcément vrai.
Oui, bien sûr. Là, c'est au lycée, je précise.
Oui, là, au lycée, il leur faut quand même un peu plus de mathématiques. À l'aise en maths.
Oui, alors là, clairement, il y a le côté médiatique qui, du coup, est coupable, parce que à ne montrer que le graphique en proportion à la population, c'est aussi eux qui ont influencé et mis ces idées-là dans la tête des gens. Alors moi, c'est des séances que je vais faire juste après, enfin là, d'ici 2-3 semaines avec mes troisièmes, ça va être la première fois que je vais faire ces séances-là, donc ce sera intéressant de voir ce que les élèves en tirent, c'est poser une question un peu provoque en entrée, que... Alors, j'ai toute une liste de sujets, donc... Et c'est, faut-il limiter ou interdire l'utilisation de certaines choses ?
Oui.
Faut-il limiter ou interdire l'utilisation de l'avion, des outils numériques, des vêtements ? Alors, interdire l'utilisation des vêtements, non, mais... limiter l'utilisation des vêtements, enfin... limiter la consommation de viande, de voitures, papier, eau, plastique, intelligence artificielle, engrais, etc., etc. Vraiment, un truc en mode... Et pour que les élèves disent quoi ? Mais non, mais...
jamais...
Voilà, c'est ça. Comment oserions-nous interdire ou limiter ?
Ou limiter, surtout l'accès au téléphone portable.
Et l'idée derrière, c'est de... Bon, ils vont je vais leur proposer de s'enregistrer, ils vont faire un débat, et on limite pas, ils ont leurs propres idées, etc. Et derrière, de voir avec eux, ok, est-ce que vous trouvez que vous avez argumenté, pas argumenté, et après chercher, du coup, à développer leur débat, en fait, pour que leur débat soit... pour que leur débat soit plus riche. Et en se disant... il faut que, à un moment, on en passe par si cette matière-là, pour la produire, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une certaine quantité de ressources, une certaine quantité d'énergie. Ça, c'est vraiment c'est pour leur montrer qu'ils n'y pensent pas, en fait. Parce qu'on va, de nouveau penser la limitation sur la deuxième partie de ce que je vais leur faire travailler, c'est-à-dire les usages. Peut-être que le plastique, oui, on arrête le plastique des couverts en plastique.
Oui.
Voilà. Mais peut-être qu'on garde celui des poches de sang à l'hôpital. Bon, voilà. Voilà. Mais les usages tout seuls, on refait retomber finalement après à chaque fois la responsabilité sur les personnes et pas sur le système. Alors que si on va leur faire montrer que ça a consommé tant de ressources, enfin. Tous ces plastiques qu'on utilise pour faire des bâches agricoles, faire des poches de sang pour les hôpitaux, pour les cigarettes électroniques jetables. Je dis exprès, bien sûr, des usages complètement délirants que l'industrie nous fout dans les mains. Quoi. Ben, il faut des ressources. Voilà. Il faut pour produire tout ça, il faut une quantité de ressources qui est, voilà, on l'a vu dans l'article, démesurément grande. Et que justement, souvent, dans la population, dans la société, chez nous-mêmes, parfois aussi, on oublie, en fait. Enfin, on oublie. On nous a fait oublier à un moment ces trucs-là. Je veux dire, un paysan, enfin, n'importe quelle personne du 19e siècle, comprenait très bien tout ce qu'il fallait pour produire. Parce que. Ils avaient eu un jour les outils entre les mains pour le faire. Même les bourgeois en avaient conscience. Et peut-être même pour ça d'ailleurs qu'ils voulaient absolument continuer à être bourgeois, c'est qu'ils voulaient justement pas foutre les mains dans la merde et dans le cambouis. Et parce qu'ils le voyaient bien. Ils le voyaient bien que c'était pas du tout un métier. Non pas pour dire que je les défends, bien sûr. Loin de moi l'idée. Mais et maintenant non, c'est complètement. Enfin, je sais pas, plein de trucs. C'est dématérialisé. Dématérialisé. Mmh. Rien que ce mot-là. Ça peut être. Peut-être c'est aussi un truc de dire aux élèves, enfin, s'ils rédigent des trucs dématérialisés, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi, en fait, c'est pas dématérialisé ? La musique, elle est pas dématérialisée. Les ordinateurs et Internet, c'est pas dématérialisé. Mmh. Il y a des serveurs, il faut les refroidir, etc. etc. J'ai lu là récemment qu'à Marseille, ils vont rouvrir une source qui était captée. Depuis la fin du 19e siècle, qui n'était pas utilisée, et ben là, ils se mettent depuis 5 ans, ils se mettent à la réutiliser pour refroidir un data center. Mmh. Ouais. Voilà. Ah, l'eau, on n'a pas beaucoup parlé de l'eau d'ailleurs. Mmh. Mais ouais, enfin.
Mais ça, voilà, ça participe aussi à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'on en utilise de plus en plus de l'énergie. Et on a besoin de matières premières. Je dis on a besoin, on sait pas pour faire quoi. Hein. La question, justement, elle peut se poser. La difficulté aussi, comme on disait juste avant la pause, c'est que quand on commence à s'intéresser à ce sujet, ça devient très rapidement anxiogène. On se rend compte que tout ce qu'on fait, c'est mal. qu'il n'y a pas beaucoup de solutions alternatives. Moi, j'ai vu des élèves qui étaient parfois justement en difficulté devant ce constat-là. Et ce qui était, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que la seule solution sur le moment que j'ai réussi à leur proposer, c'est une fuite en avant, comme on disait. C'est pour l'instant ça n'existe pas, mais peut-être que on pourra trouver quelque chose qui sera mieux. En les encourageant en plus à devenir la personne qui trouvera ce nouveau cette nouvelle technologie qui permettra justement de ne pas trop dégrader la planète. Ce qui est le problème en général, c'est que quel que soit ce qu'on utilise, donc le bois, on a parlé du bois, du charbon, du pétrole, à chaque fois, ce sont des choses qu'on va extraire de la terre. Ouais. Alors le bois, un petit peu différent, parce qu'effectivement, on nous dit toujours le bois, ça repousse.
Ouais, mais à une vitesse, à quelle vitesse ?
À une vitesse quand même assez lente. La difficulté, moi aussi, ce que je trouve quand même assez grave, c'est que les forêts, la plupart, il y a quand même beaucoup, notamment dans le sud-ouest, hein, les forêts de pins, en fait, c'est des forêts où on fait pousser du bois justement pour la coupe, on fait des coupes rases, et en fait, ce sont des forêts qui sont mortes. Il y a très peu d'oiseaux, il n'y a aucun rongeur qui peut survivre dans ces forêts. Donc esthétiquement, oui, ce sont des forêts, il y a des arbres. Mais en fait, il n'y a pas du tout toute la vie, tout l'écosystème qu'il y a dans une forêt qu'on va appeler plus traditionnelle.
Oui, ça soulève aussi la question de la préservation, préservation des écosystèmes aussi, d'ailleurs. Et est-ce que ça me faisait penser aussi à cette question justement de la forêt versus les opposés aux énergies fossiles. Il est vrai qu'en France et dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, depuis le 19e siècle et justement le moment où, enfin même peut-être un peu plus récemment, depuis le moment où il y a eu la déprise agricole et qu'on a utilisé de plus en plus de pétrole et de charbon, qu'on en importait justement, la forêt a pu reverdir, parce que du coup, on utilisait de moins en moins de bois, notamment, enfin notre bois en fait, on utilisait le bois d'ailleurs, mais on n'utilisait plus le bois, voilà. Et ça c'est une question aussi qui est posable, c'est-à-dire si on diminue aussi notre cours aux énergies fossiles, est-ce qu'on se remet à couper effectivement les forêts ? En fait, mais à un moment, c'est un choix qui... Je ne sais pas si un jour il se présentera à nous, si on aura le temps, etc. Mais ça peut être aussi, pareil, des choses à amener aux élèves. Qu'est-ce qu'on choisirait, quoi. Peut-être des débats aussi, des débats, des moments. Enfin, voilà, et donc du coup, ouais, bon, je vais tester ça avec mes troisièmes. Donc ils vont faire leurs petites recherches, en espérant avec pas trop d'intelligence artificielle. Pour, voilà, est-ce qu'on limite, etc. Des trucs, en fait, qu'il faudrait qu'on puisse décider, en fait, au quotidien. Il faudrait qu'on puisse décider, quoi. Globalement, là, notre énergie, l'énergie, les matériaux, etc., on n'a aucune décision. Jamais, à aucun moment, on nous dit « Ah, qu'est-ce que vous préférez ?»
Et on n'a même aucune idée, parce que, autant, par exemple, quand on achète de la viande, on sait d'où elle vient, et c'est écrit...
Ouais.
L'origine des produits, des légumes aussi, mais les objets qu'on achète, il n'y a pas forcément écrit qu'il a fallu des tonnes de produits chimiques, il a fallu du pétrole, et ça effectivement peut-être que ce serait une information qui serait intéressante à avoir.
Oui.
Et puis de toute façon, bon, je dis souvent aux élèves, je leur fais parfois des choses comparatives comme ça sur est-ce que c'est mieux le charbon, est-ce que c'est mieux le pétrole, et la conclusion c'est qu'en fait il n'y en a aucun qui est bon.
Oui. Oui, c'est comme comme le bois, à un moment il faut bien le couper et donc péter la forêt, sauf à la gérer de manière carré, quoi. Le nucléaire c'est pareil, etc. Oui, dès qu'on gratte en fait...
Oui.
dès qu'on gratte. C'est pas toujours pour tout à fait les mêmes raisons, mais... Mmh. Ouais.
Et on en revient encore une fois à l'aspect anxiogène. Il n'y a que des mauvaises solutions.
Ouais.
Qui est quand même assez déprimant.
Mmh. Ouais, moi je me souviens de la... C'est, je crois que c'est la faute, justement, j'ai découvert l'auteur de l'article, donc Fressoz, qui était dans une interviewé sur... dans une vidéo sur internet. Et la vache, enfin, c'était un peu la redescente brutale, quoi, sur Terre. Et c'était un mois où il y avait des sécheresses partout en Europe. Un été. Il y avait des sécheresses partout en Europe, comme d'habitude, hein, maintenant, de toute façon. Enfin, tu prends ça. À un moment, j'ai une petite crise d'angoisse. Okay. Bah oui, bah, bien sûr. Parce que. Ah, comment alors? Bon. Sur ces choses. D'une joie.
Ouais, ouais.
D'une joie délirante. La foule est en délire. Nous allons peut-être nous écouter un petit son avant de passer à la partie sur l'intelligence artificielle qui nous occupera jusqu'à la fin de l'émission, d'ici 22h30. Et puisque vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Et nous allons écouter le son suivant qui est hop, si on se souvient bien.
Le son suivant, Painter's Tape, We Are TY.
Bonne écoute, bon, à tout de suite.
C'est reparti, on est à l'antenne.
Ah oui. Oh oui. Rebonsoir à tous et à toutes. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, l'émission de la CNT Éducation 93. Bon, après en avoir fini après ces trucs délirants, pas délirants, déprimants, sur l'énergie, l'écologie, et sur. On va essayer d'en parler un peu mieux aux élèves, mais de toute façon, on va se manger le. On va se manger la suite dans la gueule. Parlons justement de... Si on devait faire des recherches aux élèves, ils utiliseraient maintenant, probablement...
L'intelligence artificielle.
Et bien sûr.
Sujet qui ne sera pas du tout anxiogène non plus.
Jamais. On ne vous ferait pas ça, camarade.
On va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Alors comme j'ai dit au tout début de l'émission, pourquoi déjà ce sujet? Tout simplement parce que c'est au programme. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, au lycée, avec la dernière réforme du baccalauréat, il y a des enseignements qu'on appelle enseignements scientifiques, et donc qui permettent, enfin qui, le but hein, officiel, c'est de donner des clés de compréhension aux élèves sur les sujets scientifiques présents et futurs. Donc il y a tout un tas de thématiques qui sont abordées, dont une partie qui est sur l'intelligence artificielle. C'est des séances qui intéressent très fortement les élèves quand on parle justement des notions, beaucoup moins quand on commence à expliquer comment fonctionne une intelligence artificielle. Voilà. Avant d'en parler un peu, et on va surtout bien évidemment parler des problèmes et des limites hein, que pose l'utilisation de l'intelligence artificielle, juste faire un petit topo généraliste. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? C'est un mot qui est très utilisé.
Oui, on l'entend partout, là.
On l'entend tout le temps. Voilà, et ça regroupe, en fait, tout un tas de choses un petit peu différentes. Donc, il y a plusieurs définitions qui existent, qui sont proposées par différentes personnes suivant les thématiques qui les intéressent. On peut globalement retenir que finalement, l'intelligence artificielle, ça suit un petit peu tout ce qui est niveau technologique, tout ce qui vient avec l'automatisme. On a commencé principalement dans le siècle dernier, c'est-à-dire le 20e siècle, à essayer de faire des choses toutes seules, automatiquement.
Oui, voilà. On le lance et puis ça compute.
Et puis ça fait tout seul. Donc on a commencé par des machines, c'est le principe même d'une machine, n'importe laquelle, une machine mécanique. On appuie sur des boutons, la machine exécute une tâche.
Genre un feu rouge.
C'est ça.
Voilà. Ouais. Ok.
Un feu rouge, une machine, elle fait exactement ce qu'on lui demande. Et donc ça regroupe à l'heure actuelle en fait tout ce qui tend justement à faire des processus automatisés. En gros, une très grande partie, c'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ça veut dire aussi que, par exemple, pour tout ce qui est enseigné principalement dans les BTS, il y a des BTS technologiques dans lesquels on enseigne l'automatisme, où là, c'est vraiment de l'automatisme. C'est pas de l'intelligence artificielle. On utilise des capteurs. Une fois que le capteur, il nous donne une information, par exemple un capteur de température, il nous dit il est 20 degrés, nous... On a dit, si c'est plus de 15 degrés, il faut... Si la température est supérieure à 28 degrés, il faut allumer la climatisation. Ouais. Si la température est inférieure à 15 degrés, il faut allumer le chauffage.
Oui, c'est tous les trucs d'une chaudière, des chaudières modernes. Hein.
C'est ça. À l'heure actuelle, ce serait qualifié d'intelligence artificielle.
Ah oui, d'accord. Mais voilà. Autre exemple, les essuie-glaces sur une bagnole qui se lance tout seul.
Oui, ça pourrait aujourd'hui être accepté comme intelligence artificielle.
Ah oui, d'accord. Ah ouais. Je prends un dernier exemple. Je tape le nom du site internet dans un navigateur, www.cnteducation93.fr.org, je sais plus. La requête est envoyée au serveur. Le serveur le sait ce qu'il doit faire. Il n'y a pas d'humain derrière. Ça, pareil. Même topo. Automatique. Il y a un langage.
Non, parce que justement, là, toi, tu as saisi quelque chose dans l'ordinateur. C'est toi qui es intervenu.
D'accord. Ah, donc là, oui.
Il y a un être humain qui est intervenu. Voilà, le principe d'automatisme, c'est vraiment ce qu'on nous vend actuellement, par exemple, pour les maisons de campagne. On te dit, le chauffage est activé automatiquement avant que tu arrives chez toi.
Oui, parce que tu as pré-rentré à l'avance que de telle date à telle date.
Que à cette date, tu y serais...
Bourgeois.
Eh oui.
OK.
Et donc, on peut classer intelligence artificielle à l'heure actuelle, quand même la plupart de ces technologies, celles qui sont le plus utilisées, et surtout par nos élèves, celle qui est le plus utilisée, c'est ChatGPT. Alors c'est une intelligence artificielle un petit peu différente des autres, Bon, sans rentrer dans les détails, c'est sont en fait toutes les intelligences artificielles qui sont basées sur du texte, puisque ChatGPT ça, il propose du texte, on pose des questions, on a éventuellement des interactions avec la machine, et elle nous répond sous forme de texte. En fait, ce qui se passe, c'est que la machine, elle, cette intelligence artificielle, qui est beaucoup plus complexe qu'un système automatisé, hein, là on est vraiment dans des choses extrêmement complexes, en fait, elle fait, pour simplifier à l'extrême, elle fait ce qu'on appelle une régression linéaire. C'est-à-dire qu'elle prend les mots et... dans toute sa base de données, elle regarde quel est le mot qui est le plus utilisé avec ce mot-là. Ouais. Et elle fait des processus itératifs, comme ça, et elle arrive finalement à voir que souvent, après « je », il y a un verbe, et que du coup, il y a toujours un petit peu les mêmes verbes qui reviennent. Et elle arrive à créer du texte comme ça. Elle est, en fait, elle... de très haute performance, si vous pouvez la comparer avec, si vous avez un téléphone portable, vous avez le T9, qui est l'écriture un petit peu automatique du téléphone portable. Si vous commencez à taper un mot, il va vous proposer un autre mot, un deuxième, un troisième, et vous allez comme ça pouvoir faire une phrase qui a un sens, qui est intelligible.
Oui.
Et donc ça, c'est vraiment en fait comme ça qu'elle fonctionne. Elle sait qu'il y a des mots qui viennent les uns avec la suite des autres. Elle connaît ce qu'on appelle les champs lexicaux. C'est-à-dire que si on lui parle d'un roman et qu'on lui donne le titre du roman, elle va reprendre ce titre du roman, elle va regarder toutes les fois où elle retrouve ce mot-là. Et à chaque fois qu'elle trouve ce mot-là dans sa base de données, elle va regarder quels sont les mots qui sont associés.
Ok.
Et donc en fait, il donne... finalement, la solution la plus donnée par tout ce qu'il possède dans sa base de données.
Ok. Je note en même temps les questions, parce que du coup, c'est vrai que ce sont des problèmes qu'on va soulever du coup tout à l'heure.
Oui,
forcément, là, rien qu'à ce moment-là. Mais du coup, c'est une... Je maîtrise pas forcément tout le truc. C'est ce qu'on appelle du coup une intelligence artificielle générative.
C'est ça.
Parce qu'après, il y en a un troisième type.
Il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Oui, le troisième, j'ai oublié le nom là, ça m'échappe.
Oui, c'est pour ça. Oui, ok. Donc là, oui, c'est du. Donc, ouais.
Voilà. Okay. Dernier point aussi également, pour dresser un tableau un petit peu de l'intelligence artificielle. On lui donne le terme d'intelligence. Ah, c'est très compliqué parce que déjà le mot intelligence, on ne comprend pas tous de la même manière, on n'est pas tous d'accord pour dire, pour avoir une définition commune. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'elle est artificielle, mais elle provient surtout d'expérience. Nous, on fait faire des expériences à nos élèves, des expériences en physique, chimie, en SVT, des exercices, des applications, des études documentaires, des choses comme ça. Mais à nos élèves, on leur fait sur un thème 2-3 fois. Parce que il faut avancer, parce qu'il faut apprendre vite. Voilà. Et donc nous, on espère qu'en répétant... peut-être 5-6 fois la même chose, nos élèves vont l'apprendre et ils vont pouvoir après l'utiliser.
Ouais, un entraînement. Voilà.
Ce qui se passe habituellement, la machine, elle a besoin en fait de millions et des millions d'exemples. Et elle ne comprend pas les exemples. C'est juste qu'à force de voir 1 million de fois.
Et que derrière un jeu, il y a un pense ou un être ou un verbe.
Voilà. Et que. Comprend pas le sens du mot. Il voit juste que c'est des mots qui sont, pour chaque GPT, qui sont fréquemment associés les uns aux autres. C'est la même chose aussi pour les intelligences artificielles qui génèrent des images. Ils se rendent compte, en fait, que quand il y a 7 séries de pixels qui s'affichent, souvent il y a une autre série de pixels qui s'affiche à côté.
Telle couleur à côté, etc.
Voilà. Et donc il comprend très bien la structure des pixels en eux-mêmes. La limite, c'est qu'on a plus de mal à le voir sur les intelligences artificielles qui produisent du texte. Ça se voit à l'heure actuelle encore beaucoup plus sur celles qui produisent des images, c'est qu'il y a des choses qui visuellement sont fausses. À l'aspect, bon, le plus connu, c'est les mains qui ont six doigts, parce que l'ordinateur, même après avoir vu des milliards et des milliards de photos, il ne peut pas comprendre qu'une main elle a cinq doigts. Il voit qu'à côté d'une série de pixels qui ressemble à un doigt, bah, il y a souvent un autre doigt.
Oui, donc...
Mais
il sur les... pas au bon moment. Quoi.
Voilà, et sur les photos que lui, il a vues, celles qu'on lui a données, bah, des fois, il y a des photos où, en fait, des photos réelles, hein, où on voit que trois doigts.
Oui.
Parce que le reste de la main est caché.
Oui, c'est ça.
Donc lui, même avec ses millions et des millions ombres, d'exemples, voilà, il ne peut pas retenir une chose aussi simple que fait une main à cinq doigts. Toujours. Il n'y a jamais de main à six doigts. Ouais. Et lui, justement, une des limites qui est assez peu abordée, qu'on n'abordera pas ici, du coup, aussi non plus, hein, c'est que l'intelligence artificielle ne se rend jamais compte qu'elle se trompe. Elle donne une réponse qui lui semble, elle, statistiquement vraie. Et donc c'est effectivement une très grosse limite de cette intelligence artificielle.
En fait, c'est pas le, c'est pas par l'erreur quoi, c'est que ça réfléchit.
Oui. Et bon, on peut mettre même en perspective avec une citation d'Albert Einstein qui disait que l'intelligence, c'est de faire le bon choix quand on ne sait pas quoi choisir. Alors bon, c'est un peu compliqué parce que, comme j'ai dit, on a beaucoup de définitions de l'intelligence. Einstein, lui, la voyait un peu comme de l'intuition. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne nous a pas appris quoi faire ?
Oui.
On peut effectivement qualifier ça d'intelligence. La machine, elle ne peut pas répondre à une chose qu'elle n'a jamais apprise. Apprise dans le sens où on lui a montré. Si on ne lui a pas montré des millions et des millions d'exemples, la machine n'a pas de réponse. Ou alors, enfin, n'a pas de réponse. A une réponse qui n'a aucun sens. Parce qu'elle donnera quand même toujours une réponse. Donc c'était un petit point global sur... qu'est-ce qu'on parle d'intelligence quand on parle d'intelligence artificielle ? Un petit peu, voilà.
Définir les termes.
Définir les termes et les grands principes. Pour parler un peu plus concrètement de ce qui est au programme.
Ouais.
Comme j'avais dit, dans l'enseignement scientifique de classe de terminale, il y a une partie qui est sur l'enseignement scientifique.
Sur l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle.
Donc l'enseignement scientifique, c'est pour les élèves qui n'ont pas pris la spécialité.
Alors non, effectivement, j'ai pas. C'est pour tous les élèves.
Ah oui, ça c'est commun.
Voilà. Okay. Pour tous les élèves, qu'ils aient choisi des spécialités scientifiques ou pas.
Il y a une heure semaine.
Et donc il y a 2 heures semaine.
D'accord.
Qui est partagée entre plusieurs enseignants. En général, enseignant de SVT, en général physique-chimie. Parfois, dans certains lycées, un professeur de mathématiques peut aussi intervenir parce qu'il y a une petite partie mathématique à un moment.
Ok.
Voilà. L'idée, quand même, générale de ces enseignements, c'est, comme c'est pour tout le monde, c'est que ce ne soit pas non plus trop difficile au niveau calculatoire.
Oui.
On essaie d'accentuer un petit peu, quand même, pas mal sur la compréhension, essayer d'interpréter. Encore une fois, hein, officiellement, le but, c'est de donner des clés de compréhension. Voilà. Et donc, c'est dans cette optique-là, hein, clairement, que on enseigne toute cette partie-là. Et voilà, qu'on peut leur faire faire pas mal de choses. Explicitement, hein, je vous dis dans le bulletin officiel, on demande aussi de parler de l'apport de l'intelligence artificielle dans la santé, donc par exemple l'imagerie médicale et le diagnostic, le commerce électronique et le marketing pour la recommandation de produits, la finance pour la prévision boursière, les activités sociales, les réseaux sociaux, la traduction automatique, les communications, le transport, les voitures intelligentes, la sécurité, la création de contenu par des modèles génératifs. Donc l'exemple de ChatGPT. Donc ça, c'est tous les thèmes qui peuvent être abordés lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Et surtout, on souligne un point de vigilance, la protection des données personnelles, la propriété intellectuelle, la responsabilité juridique, les risques liés à l'IA générative dans le cadre des interactions entre l'être humain et la machine. Interaction homme-machine, voilà, etc.
Ouais, gros MDR là, parce que en fait, si on essaie de montrer aux élèves tous les soucis que ça pose sur tous les domaines que t'as cités, en fait, plein de gens en arrivera à la conclusion qu'on ne doit pas utiliser les intelligences artificielles.
C'est justement, moi je trouve, l'intérêt de cet enseignement scientifique, c'est que...
Oui, il a le mérite d'exister.
Oui, et puis surtout, c'est les élèves qui tirent leurs propres conclusions.
C'est sûr. Ouais.
La conclusion qui, moi, me paraît évidente, c'est qu'effectivement, c'est très dangereux. Pour plein de raisons.
Ouais. Qu'on va, je pense, exposer juste après.
Voilà. Mais ça intéresse aussi quand même beaucoup les élèves, parce que ça mélange des choses qui, de manière quasiment indiscutable, sont positives. Par exemple, dans les exemples qui sont proposés, l'imagerie médicale et le diagnostic. Et effectivement, on est tous d'accord pour dire que si on peut mieux détecter des maladies, mieux soigner des gens, si c'est en utilisant un outil, qui est l'outil de l'intelligence artificielle, oui, c'est bien. Et c'est là aussi la difficulté, on en revient à ce qu'on disait au tout début, des généralités de la science. La science, on a aussi la technologie, c'est son utilisation.
Oui.
C'est pas intrinsèquement mauvais, ce qui est important, c'est son utilisation. Donc effectivement, si on l'utilise pour l'imagerie médicale, là, il n'y a pas trop de questions.
C'est une chose.
Voilà. Si par contre, on l'utilise pour faire de la prévision boursière...
Ouais, clairement... Mais ça n'ira. En fait, oui. Ces deux utilisations ne sont pas séparées. C'est-à-dire que si on peut faire de la prévision de santé, c'est que à un autre moment, on fait aussi de la prévision boursière.
Oui.
Là, on va pas. C'est ça aussi. Que là, on va pas sans l'autre, quoi.
Alors, pour l'instant, ce ne sont pas les mêmes intelligences artificielles qui effectuent ces tâches, mais à terme, effectivement, l'ambition, c'est forcément comme dans toute la science en général, c'est l'unification
classique.
Voilà. Pour arriver à faire quelque chose de vraiment très performant.
Ok.
Donc. Alors, comme je disais, je ne vais pas du tout parler de exactement comment on peut faire des séances pour expliquer comment fonctionne l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est qu'un circuit de neurones, quelles sont les boucles itératives principales. Je pense que ce n'est pas le sujet. Et puis, pour le faire avec les élèves, parce que c'est au programme, c'est quasiment incompréhensible.
Mais c'est comme faire en techno quand tu fais un peu du code ou de l'algorithmique.
Voilà.
Tout de suite, ça. C'est on rentre dans le très très dur. Quoi,
dans des choses vraiment, vraiment très très difficiles. Ouais. Voilà. Et paradoxalement, comme les élèves justement utilisent l'intelligence artificielle, ils savent déjà qu'il y a quand même quelques limites. Ils n'y pensent pas trop, ils trouvent que c'est pas forcément grave.
C'est même un peu marrant.
Oui, voilà. Même des fois aussi, c'est bien.
C'est pratique.
Oui.
Ouais, quand y a un devoir à rendre.
C'est ça.
Ouais.
Et puis paradoxalement aussi, les élèves aiment beaucoup plus la publicité que, j'ai l'impression, les enseignants. Et donc ils aiment bien avoir des publicités dédiées. Ce qui est une des utilisations de l'intelligence artificielle, c'est du coup de cibler les personnes et pour leur proposer des publicités vraiment qui vont les interpeller et sur lesquelles ils vont être très réceptifs. Concrètement un peu... comme il y a beaucoup de limites à l'intelligence artificielle, il y a différentes possibilités de l'aborder avec les élèves, notamment ce qui est très faisable, et j'allais dire presque même recommandé, c'est de les faire travailler en autonomie, et de définir eux-mêmes sur quoi ils veulent travailler. Ils se rendent compte assez rapidement, il suffit, moi je fais souvent des brainstorming, où en fait ils disent des mots, et on les écrit au tableau, et après on essaye de faire un petit peu le tri, tout ça. Très souvent, déjà il y en a qui parlent des livres, et surtout plutôt des films de science-fiction.
Ouais.
Il y en a quand même beaucoup, à l'heure actuelle, qui parlent d'intelligence artificielle, qui, souvent, dans des termes pas très élogieux, et dans lesquels l'intelligence artificielle est quand même assez dangereuse.
Oui, beaucoup d'entre nous vont avoir en tête le HAL, HAL 9000 dans...
2001, l'Odyssée de l'espace. La première intelligence artificielle qui se rebelle contre son créateur. On parle assez souvent, et même dans les manuels, il utilise le film, un film américain, I, Robot.
Oui. Ah oui, bah oui, Asimov, voilà. la robotique.
C'est ça, parce qu'il fait appel justement un petit peu à Isaac Asimov, qui a écrit le cycle des robots, et qui, c'est une bonne chose aussi, une bonne introduction pour l'intelligence artificielle, de partir de Asimov. Et pour poser aussi les problèmes de limite, en parlant des lois de la robotique. Les trois lois, on peut les citer, la première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni rester passif lorsqu'un être humain est exposé à un danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence tant que cette dernière n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi.
Ouais.
Et donc c'est une bonne méthode pour introduire ce sujet.
Et parce qu'on on voit aussi le... Comment dire ? Une forme de dépossession, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle agit à notre place. Et règle en fait d'une certaine manière les problèmes de la société à notre place aussi.
C'est d'une manière plus large en fait un très grand questionnement entre l'homme et la machine. C'est une histoire justement de domination. L'être humain domine la machine puisqu'il la fabrique, il l'entretient, c'est lui qui l'utilise.
Donc il n'a pas envie que la machine le contrôle.
C'est ça, il est hors de question de renverser ce pouvoir de domination pour que la machine ne serait-ce que commence à contrôler l'être humain. Donc c'est pour ça que la première loi de Asimov, c'est explicitement ce qui est le plus important, c'est la vie d'un être humain. C'est aussi intéressant de rajouter, surtout dans le climat actuel, que le robot, il ne peut pas, en restant passif, exposer un humain à un danger. C'est très important. Le robot, il est obligé d'agir.
Mais c'est inclus dedans. Hein. Ça va avec.
C'est ça.
Y a pas, ouais. Donc ça veut dire que, je prends un exemple exprès, un peu tiré par les cheveux, mais pas tant, pour montrer un soulever un peu peut-être l'absurdité du truc, c'est si un robot nous voit frapper un nazi, il va défendre le nazi.
Oui, 100%, bien sûr.
D'accord. Ouais, donc... Donc que ce soit par l'angle du robot à la Asimov, qui est une intelligence artificielle, l'intelligence artificielle défendra les nazis. L'intelligence artificielle, c'est nazi.
Oui. certaines intelligences artificielles sont possédées par des nazis.
En plus.
Blague à part, oui, c'est quand même assez fun, même si c'est terminé. C'était une des premières expériences de Google. Google avait développé une intelligence artificielle.
Okay.
Et comme j'ai dit, pour vraiment se nourrir, pour apprendre des choses, il faut qu'elle ait des exemples. Mmh. Qu'on lui donne des trucs, tout le temps, des milliers, des millions. Et donc il s'était dit, très simplement, on va la mettre sur les réseaux sociaux.
Ah oui.
Comme ça, les gens vont eux-mêmes lui apprendre des choses. 24 heures, ça lui a pris pour devenir nazi.
Nazi, voilà. Évidemment, les trolls, qui l'a trollé plus
Si on lui répète 10 000 fois les mêmes choses du monde, ça devient statistiquement vrai.
Ouais, puis ça avait dû tourner en plus sur des sites internet et des forums genre 4chan, etc. qui sont quand même des repères de nazis plus. Donc, fatalement. Ok. Ouais.
Donc, voilà. Effectivement, on peut faire travailler les élèves à proprement parler, des œuvres de fiction. Alors, effectivement, pour nos élèves, c'est quand même un peu plus abordable des versions cinématographiques. Les robots, dit Isaac Asimov, c'est facile à lire, c'est très bien, c'est sous forme de nouvelles, donc on peut en lire quelques-unes, et pas forcément tout le livre en entier, donc c'est, ça peut aussi être très intéressant. D'autres choses effectivement qu'on peut voir comme limite, et actuellement on en a un exemple justement en Ukraine, c'est l'utilisation pour faire la guerre.
Oui, parce que en plus vient avec l'idée que c'est plus propre, parce qu'on n'en voit pas, on n'en verrait pas,
c'est ça,
de soldats au front, donc c'est une guerre plus.
Ouais, c'est ça, une guerre où on appuierait sur des boutons et au final ça serait propre.
Ça fait le taf.
Voilà. C'est extrêmement effectivement problématique, puisque en plus en enlevant justement cette pression d'une personne réelle, ça devient beaucoup plus facile de faire n'importe quoi. Bon, la guerre c'est innommable, mais en plus quand bombarder des civils, c'est pas grave, on s'est juste trompé d'une case sur le tableau. C'est pas grave. Parce qu'en fait, on les a pas vus. On a juste appuyé sur un bouton. Ouais. Donc ça participe aussi à la déshumanisation de cette chose immonde qu'est la guerre.
Oui, il y a une forme de déresponsabilisation, là, en fait.
Ouais.
Les responsables militaires, ils pourront toujours dire c'est une erreur de la machine et plus une erreur humaine, quoi.
C'est ça.
Circuler, il n'y a plus rien à voir.
Et malheureusement, effectivement.
La bavure est.
Oui. En plus, on sait, la plupart des technologies de pointe sont d'abord utilisées pour l'armée, pour le secteur militaire, et éventuellement après dans le domaine civil. Ouais. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi très, très problématique. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a tout un tas aussi de problèmes sur qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle.
Oui, c'est la question que j'avais posée. Sur la question des bases de données. Parce que du coup, il faut des données.
Oui.
Comment on les récupère? À qui? Etc.
Alors, normalement, les gens payent pour avoir des bases de données. Il serait question que, des fois, des bases de données étaient piratées.
Oui.
Tout simplement, on les prend, on vole, et on prend d'autres. Ça devient compliqué, cette histoire de propriété intellectuelle, puisque la machine se nourrit d'exemples. Et elle ne crée rien de réellement... Enfin, crée quelque chose de nouveau, oui, mais qui est, en fait, on va dire, symboliquement, une moyenne de choses qu'elle a déjà vues. Donc, en fait, elle copie les autres.
Ouais.
Et donc ça devient compliqué quand des personnes ont essayé d'écrire des livres grâce à l'intelligence artificielle, de produire des films, de produire des choses, des biens culturels grâce à l'intelligence artificielle. On peut se poser la question après de Bah, qui l'a vraiment fait?
Oui, mais je crois que Amazon, qui ont une plateforme d'auto-publication, ils ont mis en place une limite du nombre d'ouvrages que les gens peuvent publier par jour. Mmh. Parce que depuis les intelligences artificielles, depuis qu'elles sont arrivées pour le grand public, donc il y a 5 ans, ça a explosé le nombre de... Les gens écrivent leurs bouquins, enfin n'écrivent pas. N'écrivent quand ils ont 3-4 idées et puis c'est le bouquin qui est écrit.
C'est aussi une limite que certaines personnes voient à l'intelligence artificielle et voient son propre effondrement à cause de ça, c'est sa surutilisation. Si en fait l'intelligence artificielle produit des textes, on va rester sur l'exemple simple, production de texte, elle va produire le texte, qui sera une moyenne de ce qui a été fait avant. Mais donc elle va quand même produire ce texte. Donc elle va aussi contribuer, dans sa propre base de données, à renforcer ses valeurs moyennes. Et si elle produit un million de textes, qui sont en fait
toujours basés sur le...
tous semblables, elle va extrêmement réduire sa moyenne, et en fait, elle va devenir de plus en plus pas intelligente.
Ouais.
Puisqu'elle aura finalement moins d'exemples et elle va elle-même en fait rentrer dans un biais cognitif d'encerclement. Elle va se prendre à son propre jeu.
Ça va être assez lointain parce que là, au fur et à mesure que le temps passe, les œuvres tombent dans le domaine public. Donc, on peut supposer que... la diversité des textes qui entraînent les intelligences artificielles augmente.
Non, parce que ce qui est important, c'est le nombre. En fait, ce qui est important pour une intelligence artificielle, et c'est la principale différence avec un être humain, nous, ce qu'on fait en tant que prof, c'est qu'on choisit déjà des bons exemples qui permettent de comprendre des choses. L'intelligence artificielle, elle ne peut pas discriminer un texte qui serait bien d'un texte qui serait pas bien, d'un texte qui serait exceptionnel. Et donc, comme elle n'a pas en fait, d'échelle méliorative, elle, ce qu'elle prend, c'est uniquement des effets statistiques. Voilà. Alors, bien évidemment, les bases de données sont purgées, sont mises à jour. Ça donne lieu à tout un grand raffut. À la dernière mise à jour de ChatGPT, ça a été... quelque chose d'assez fort.
Ok.
Mais voilà, ça peut être aussi une des limites de l'intelligence artificielle et de sa surutilisation.
Donc aussi, on retient que voler pour bouffer le soir dans un supermarché, c'est pas bien. Voler des quantités astronomiques d'œuvres qui font vivre des artistes, ça va. Et je crois que les artistes ont commencé à fuir aussi Twitter, enfin Twitter X, parce que en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait des images qu'ils postaient sur les réseaux sociaux pour vivre en fait, en disant moi je, en tant qu'artiste je produis ça, et qui étaient récupérés par les intelligences artificielles pour faire de l'entraînement.
Oui, parce que c'est justement quelque chose de très important et sur les réseaux sociaux. Si vous lisez en détail tout ce que vous avez accepté dans les conditions générales, vous avez accepté, en participant à un réseau social, de nourrir une machine d'intelligence artificielle.
Ouais.
C'est parfois explicitement écrit. Et de toute façon, après, une fois que c'est, comme on dit, c'est publié sur Internet, c'est libre d'accès. Mais c'est vrai que on en revient au même constat, voler un petit peu c'est grave, voler énormément c'est normal.
D'ailleurs, dans la dernière mise à jour de Firefox, y a une option qui a été activée par défaut, qui est l'utilisation d'une intelligence artificielle. Donc ça se désactive, donc allez fouiller dans les options, je ne sais plus à quel endroit, pour désactiver ce... pour pas que le chatbot, c'est-à-dire le robot de conversation dynamique, vous réponde quand vous faites vos recherches. Allez décocher cette option-là, c'est Vous la trouvez, ça se trouve assez vite. Hein. Mais même Firefox, qui logiciel libre, tout ça, toute cette culture-là, se met à faire ça parce qu'il y a une course à aussi à la rentabilité. Et qu'au d'un moment, faut exister en fait dans le paysage. Et là, le paysage, il est en train d'être hégémonique.
Et puis c'est tellement à la mode l'intelligence artificielle.
Ouais, que c'est ça aussi.
N'importe quelle technologie qui n'utilise pas l'intelligence artificielle aujourd'hui est quasiment, n'a que très peu d'intérêt. C'est pour ça aussi.
Elle te paraît déjà obsolète.
Voilà, c'est pour ça aussi, comme je disais en introduction, que ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle, ça regroupe énormément de choses et parfois souvent des systèmes automatisés. Qui ne sont pas à proprement parler ce qu'on appelle en général l'intelligence artificielle. Mais ça me semble pas mal.
Ouais, on a fait un gros tour de le défrichage du sujet.
De tout ça.
Alors, je vois l'heure qu'il est. J'ai un peu peur que si on veut se passer un dernier son, qu'il va y avoir un son qui saute et qu'on fasse un petit agenda.
Non, on va peut-être faire l'agenda.
On va se faire l'agenda et puis après on passera un dernier son. Mais alors, juste pour un petit peu pour conclure. Non, mais ça me faisait penser à un autre truc, c'est que Jeanne Guyen, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une philosophe donc des objets, philosophe de la matérialité, donc voilà, était ce soir à la librairie Le Mont en l'air, dans Paris. Parce qu'elle sort un nouveau bouquin, justement, qui s'intéresse à cette question de la nouveauté. Ou justement, comment entre le marketing, etc., on nous présente que la nouveauté, c'est toujours ce qu'il faut, etc. Tu disais tout à l'heure sur la mode de l'intelligence artificielle. Mmh. On nous présente, vu que c'est une innovation.
Nouveau, c'est mieux.
C'est bien, voilà, exactement. Voilà.
Nouveau, c'est mieux qu'avant.
C'est ça. Et ça, pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir ? J'ai l'impression. Parce que c'est quelque chose qui est visible. Enfin, son bouquin est sous-titré 15e siècle, depuis le 15e siècle. Mmh. Et donc c'est que 15e siècle. Enfin, c'est vraiment les prémices de la révolution industrielle. Quoi. Bien.
Très bien.
Bon, effectivement, on va passer à l'agenda.
On va passer, oui, à l'agenda.
Camarade de l'émission suivante qui est arrivé.
Qui est arrivé.
Voilà, donc passons à l'agenda.
Alors juste un dernier point pour conclure sur juste l'intelligence artificielle. Je tombais sur un texte de Cédric Villani, ancien ministre.
En mathématicien.
Grand mathématicien. Oui. Ancien ministre.
Donc c'est dans le 1 hebdo.
Ça s'appelle, le 1 hebdo. Ouais. Et en fait, ce que je trouvais très intéressant, c'est que c'est le titre, surtout, de son article, de son billet, qui s'appelle Qui contrôle qui ?
Qui garde les gardiens ?
Voilà. Okay. Qui garde les gardiens ? Qui domine ? Qui domine ? Ouais. Est-ce qu'on va continuer à dominer la machine ? Ou est-ce que ça va se passer autrement?
Ouais.
Et voilà. Encore une fois, pourquoi je trouve ça très intéressant? Parce qu'on voit, la plupart des gens imaginent toutes leurs relations comme des relations de domination. Il faut dominer la machine.
Voilà. Ouais, sauf qu'un truc qu'on a entraîné à dominer, à un moment,
il va se révolter.
Ouais. Belle conclusion.
Voilà. Ouais.
Merci. Agenda. Alors, on avait noté 2-3 petits
agenda,
trucs.
Notre agenda, très bien noté.
Sur le... Je sais plus. Alors, déjà, on vous rappelle un petit peu les permanences de la CNT en Ile-de-France, de la CNT Éducation 93. On est tous les mercredis de 17 à 19h au 37 bis rue des Trois Bornes. C'est le local temporaire avant qu'on récupère, Inch'Allah, les vignoles.
Oui, venez, c'est super cool, c'est moi qui suis.
Ouais, c'est vrai. Le local est moche, mais bon.
Les gens sont sympas.
C'est ça. Et à l'Université Paris 8, il y a la section de l'Université Paris 8, qui, donc à Saint-Denis, qui tient une permanence tous les mardis de 16h à 18h en salle A0172. Vous pouvez aussi les contacter sur le mail cntp8, cntp8, le chiffre, @riseup.net. Notre adresse à nous, c'est educ93@cnt-f.org. Vous avez un problème au boulot, vous avez des problèmes dans, avec votre, vos employeurs, vos patrons, vos chefs, bah, on en parle, on essaie de s'en occuper.
Viendez.
Aujourd'hui, il y avait une grève, justement, à propos de P8, il y avait une grève dans l'enseignement supérieur et la recherche, puisque bah, avec ces, voilà, ils introduisent des nouveaux trucs tout le temps, hein, la néolibéralisation se poursuit, surtout, on essaie de faire croire qu'on fait mieux qu'aux États-Unis, où eux, ils censurent, mais nous, en France, on serait un havre de glorieux, voilà. Bref, vive la grève. Le 14, on a vu passer une manif contre l'expulsion des squats Alzol et La Trotteuse à Pantin. Donc il y a une manif, le 14, c'est vendredi. C'est ça ? Oui, vendredi 14, à 17h. Voilà. Il y en aura, on aura peut-être des camarades. Et du 22 au 30 mars se tiendra la semaine anticoloniale. Classique du milieu militant. Classique du milieu militant en région parisienne. Et donc l'apogée, bah, c'est le week-end, hein, du 29 et 30 mars. Voilà, nous, on tiendra une table à la CNT et puis il y aura toujours plein de trucs. Hein. Semaine anticoloniale, c'est souvent au CICP, mais il y a aussi la parole errante au syndicat solidaire, etc., etc. Et puis la CNT Éduc reviendra le 8 avril pour la prochaine émission. Pas de sujet pour l'instant.
Non.
Mais on vous le concocte. Et puis.
Ce sera très intéressant.
Forcément, puisque c'est nous. Bien. Merci, Paul.
Merci.
Merci, Panacota, à la technique encore. Fort cœur sur toi. Merci à vous de nous avoir suivis au lieu de regarder. Liverpool PSG.
Ouais. Maintenant,
il reste le dernier quart d'heure.
Faut quand même dire merci Ousmane. Ça fait plaisir.
Et on se laisse sur un dernier son qui est. Je l'ai noté, je sais plus où. Si. C'est toi qui l'as noté ?
Oui.
Là.
Oui.
Avec Yasmine Hamdan. Et c'est Home. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. C'était la CNT Éducation 93 sur Radio Libertaire 89.4. Vive la grève.
Vive la lutte.
Bonne soirée.
شو صاير هون انهيار وكم حب يوم ورا يوم بستجوب التليفون قتيل بغرفة النوم كل يوم بروفت قتلهم مش قادرة افصل خلص خلص الحكي هون أرض صغيرة وجرح كبير ناس تضل ناس تضل وناس تغير غايبة بوسط الصالون غايبة معي هون هزت بدن والتلفزيون خلص خلص الحكي هون أرض صغيرة سرح كبير ناس تضل ناس تضل أرض صغيرة جرح كبير ناس تضل ناس تضل
de pures plaintes, d'absurdes absinthes, de vin de messe, de vin païen, tombé par terre et comme un oiseau ivre, voler, revivre, émerveiller dans l'air plus libre, dans l'innocence réveillée, la joie furtive d'avoir volé autant, dictateur infini, un peu d'oubli, ivre.